Et jusqu'au petit jour, on ira faire
la fiesta.
La fiesta. Bienvenue à La Grange, deuxième saison, deuxième épisode, une des trop rares émissions à aborder à la fois Karl Popper et Patrick Sébastien. Alors, première chose, arrêtez de nous envoyer de l'argent sur Tipeee. La Grange pue le cramer à force de jeter l'excédent de billets dans la cheminée. Et en plus, je suis quasi sûr que c'est toxique pour les poumons. Bref, esprit critique, esprit cynique et également esprit un peu égaré car je me suis rendu compte que j'ai oublié lors de notre précédent épisode un élément primordial dans mon édito. J'ai évoqué rapidement l'épistémologie, donc l'étude de la connaissance scientifique, mais j'ai oublié de parler des maillons qui constituent le canevas des connaissances scientifiques. Les articles scientifiques et plus particulièrement la façon de lire des articles scientifiques. Alors, c'est quelque chose de primordial car évidemment, toutes les études ne se valent pas. Une étude avec une méthode au béton sur un grand nombre de sujets sera beaucoup plus solide en termes de connaissances que mon expérience de TPE de première S où je comptais le nombre de billes que j'arrivais à m'enfoncer dans le nez pour déterminer le volume moyen du cerveau d'un adulte. Alors, soit vous avez eu de la chance et on vous a appris comment lire un article scientifique lors de votre scolarité, soit vous allez devoir vous former vous-même. Ou troisième option, vous n'en avez rien à péter, un peu comme Eric, quoi.
C'est ça, les enfants. Moi, c'est le côté Patrick Sébastien de la soirée.
Et ne dit-on pas heureux les simples d'esprit. Alors, je ne suis pas de la police et je ne suis pas qualifié pour vous dire comment vivre votre vie. D'autant plus que l'étude de la lecture critique d'articles, c'est affreusement chiant. Un peu comme un sketch de Roland McDan, quoi, mais à l'inverse de Roland McDan, c'est utile, c'est même très utile. Afin de vous construire vos connaissances et votre vision du monde sur de bases solides. J'ai donc mis en description trois petits liens d'articles courts et condensés qui sont, je trouve, une bonne introduction à la lecture critique d'articles scientifiques.
Tu sais que si les gens écoutent des podcasts, c'est justement pour pas aller lire des articles.
Eh ben, détrompe-toi, on a reçu un mail avec quelqu'un qui a
beaucoup trop de temps à perdre.
Qui a cliqué sur les sources et qui a...
Oui, j'ai vu, il avait critiqué le fait que je ne mettais pas mes sources en description.
Exactement.
Donc, alors que...
Voilà, n'hésitez pas à cracher votre haine au visage d'Eric à lagrangepodcast@gmail.com.
Alors que j'ai pourtant, dans le monde scientifique, je pèse, comme dirait Adri, je pèse vraiment dur, non, lourd.
Ça t'a perdu du coup. Écoute, intro.
Lagrange Podcast.
Esprit critique.
Esprit cynique.
J'imagine les gens qui nous écoutent et puis qui commencent à se toucher sur ma voix et après ils entendent ta voix, ils arrêtent de se toucher.
90% des auditeurs apparemment. Et avant toute chose, toujours sur la vague de l'esprit critique, j'ai mis en description encore une fois un PDF introductif, le petit cours d'autodéfense intellectuelle. Alors je sais, c'est toujours hyper chiant de devoir cliquer sur des liens en description, mais cette lecture peut éventuellement changer votre vie ou du moins votre façon de voir le monde. Donc c'est le résumé d'un livre assez épais, mais qui fait, le résumé fait 36 pages. Ça date un peu puisque c'est paru en 2002 et surtout c'est écrit en québécois. Et donc il y a des tournures de phrases un peu cheloues, mais en vrai je conseille à tout le monde la lecture, ça apporte les bases de l'esprit critique, ça t'apprend à gérer l'information que tu reçois. Donc je le conseille vraiment à tout le monde, au moins autant que de manger moins gras, moins sucré, moins salé.
C'est pas un peu gênant que les gens deviennent un esprit critique parce qu'après ils vont vraiment nous écouter, ils vont remettre en doute ce qu'on dit alors que notre parole est sacrée.
C'est une
excellente
chose. Notre
parole est sacrée.
Et d'ailleurs l'introduction est assez chiante mais ça explique pourquoi c'est intéressant en démocratie d'avoir un esprit critique.
Et j'espère que vous avez commencé à utiliser des pendules rapport à l'épisode d'avant. Pour maintenant prendre vos décisions et faire les bons choix dans la vie.
Exactement. Bah, du coup, Eric, est-ce que tu voulais lancer une petite rubrique sinon je...
Non, du tout. Je n'ai pas du tout travaillé. Tu m'avais demandé de travailler et je ne l'ai pas du tout fait.
Okay,
donc,
cool.
je travaillerai pour l'épisode d'après.
Très bien. Et bah, aujourd'hui, on va parler d'un nouveau biais cognitif. Alors, petit rappel, un biais cognitif, c'est une erreur de raisonnement dans laquelle on tombe tous, souvent sans le savoir, et qui nous empêche de raisonner de façon optimale. Donc, dans le dernier, on avait parlé de l'effet Dunning-Kruger. Le fait que les gens faiblement compétents dans un domaine surestiment leurs compétences.
D'accord, comme voilà. Si les gens malades savent comment se soigner ou des trucs comme ça.
Alors, c'est pas parce que t'es malade que t'as des connaissances en
ben
maladie.
Ben oui, justement.
Non, les gens... ça serait quelqu'un qui fait un peu de recherche sur, l'énergie nucléaire et qui dit « Ah ben non, c'est pas bien l'énergie nucléaire. » Alors que, tu vois, le rapport de GIEC, des mecs qui sont quand même... qui pèsent un peu, ils disent « Ben non, c'est plutôt une bonne solution, au moins à court terme. » Tu vois, par exemple...
D'accord. Donc c'est sur des gros sujets, ça va pas
ça
être
peut
un
sur
type par
quel
exemple
sujet.
Qui est un peu malade et qui va dire ah, tiens prends
en fait,
ce médicament.
En fait le fait d'être malade c'est pas une connaissance tu vois.
Oui mais juste c'est parce que t'es soigné tu penses que
parce que tu sais que l'effet placebo.
Non pas du tout, c'est ce que je t'expliquais, c'est que on te file un médicament parce que t'es malade pour tel truc donc tu sais que ce médicament va bien pour tel truc et tu
ah oui et t'extrapoles les connaissances. Voilà. Ouais ça peut être d'accord. Mais c'est pas le fait d'avoir été malade dans ce cas, c'est le fait qu'on t'ait...
Oui, qu'on t'ait donné une information sur comment soigner telle maladie.
Alors voilà, bah, je pense que ça en fait partie, c'est donc l'effet de Dunning-Kruger, effectivement. Aujourd'hui, on va parler d'un biais cognitif classique, le biais cognitif par excellence, le classicos de chez classicos, le biais de confirmation. Donc c'est le biais par lequel un humain renforce ses croyances. En gros, on privilégie les informations qui vont dans notre sens, au détriment de celles qui vont à l'encontre de nos croyances. Donc ce biais va tordre la réalité pour la faire coller avec nos croyances. Imaginez un peu comme un troisième Segpa qui essaye de faire rentrer son cube dans le trou en forme de triangle et qui appuie tellement fort qu'il finit par le faire rentrer dedans, quoi. Bah, c'est un peu pareil. Le truc chiant, encore une fois, c'est qu'on y est tous soumis, même si on n'est pas allé en Segpa, en fait. Hein. Et à la manière d'une pute trop chère qui a le sida, le biais de confirmation te baise à trois niveaux.
Et là, j'ai envie de dire bonjour, maman de Adrien.
Il te biaise au niveau de la recherche d'informations, de l'interprétation des informations et de la remémoration des informations. C'est en partie par ce biais qu'on retrouve des gens qui croient en des choses qui paraissent absolument absurdes à des gens qui n'y croient pas. Je pense à la théorie de la Terre plate, l'existence d'un complot mondial pour faire croire que les hommes sont allés sur la Lune, l'urinothérapie ou ce genre.
L'urinothérapie, c'est pas vrai.
Bah en tout cas, de ce que j'ai fait comme connaissance...
D'accord, bah, faudra prévenir Matisse. Hein.
Bon, t'as de la chance, t'as pas dit son nom de famille. Je vais prendre l'exemple d'Eric. Mettons qu'Eric... C'est un exemple. Mettons qu'Eric croit que les ovnis sont dus à des visites d'extraterrestres. Donc, si l'envie
j'ai prouvé que non dans l'épisode précédent.
Encore une fois, c'est un exemple. Si l'envie lui prend de faire des recherches à ce sujet, donc il va privilégier les sources qui vont dans le sens de son hypothèse. Que ce soit dans les mots-clés qu'il va taper dans le moteur de recherche, dans les sites sur lesquels il choisira de cliquer. Donc ça, c'est le premier niveau de biais, c'est le biais concernant la recherche d'informations. Tu recherches des choses qui vont d'abord dans ton sens. Si d'aventure, il reçoit des informations contradictoires, il aura tendance à les ignorer, les négliger, ou pire, à les tordre pour renforcer encore plus son biais de confirmation. Par exemple, si le gouvernement américain fait un démenti en disant « Bah non, vous êtes con, il n'y a pas d'extraterrestres dans la zone 51 », ben, il y a une partie des gens qui vont dire « Bah non, ben, ça c'est la preuve qu'il y a bien des extraterrestres, sinon ils ne le diraient pas, c'est un complot. » Donc ça renforce encore plus ta croyance en l'origine extraterrestre des ovnis. C'est le biais d'interprétation des informations. Enfin, la dernière partie du biais, c'est la mauvaise remémoration des informations. Eric va avoir moins tendance à se rappeler des ovnis qui se sont avérés être des avions ou des étoiles et beaucoup mieux retenir les fois où il n'y a pas d'explication évidente, par exemple, quoi.
Ok.
Voilà. Et ça concerne tout le monde sur tous les sujets, donc c'est assez.
Et on peut pas se dire que la majorité du. Enfin, on prend les informations comme elles viennent, on fait un petit tri. Non, il y a toujours un biais de confirmation.
En tout cas, il faut savoir que ça existe. Comme je dis, je continue ma petite rubrique. On y est tous soumis, quel que soit votre âge, sexe, orientation sexuelle, identité de genre ou couleur de chaussettes favorite. C'est d'ailleurs, pour moi, une excellente occasion de faire un mea culpa sur un biais de confirmation personnel dont j'ai réussi à me rendre compte au sujet de l'amamalivorisme. Donc pour justifier ma croyance, donc le fait qu'il ne faille pas manger de mammifères, j'ai eu tendance à rechercher des informations allant uniquement dans mon sens. Par exemple, j'ai eu tendance à accorder énormément de poids aux faibles preuves que les oiseaux n'auraient pas d'émotion au détriment des preuves qui allaient, à l'inverse de ce que je crois. Et encore aujourd'hui, j'ai tendance à penser que consommer des mammifères, de la viande de mammifères, polluerait plus que consommer de la viande de volaille ou de poisson. Ça parce que j'ai vu mollement passer quelques articles allant dans ce sens-là, et je ne me suis pas fait chier à chercher si c'était vrai ou pas.
Que maintenant, on est d'accord pour dire que les animaux, enfin les volatiles, ont autant de sentiments.
Alors, je ne sais pas. Je n'ai pas vu non plus de...
J'ai vu des perroquets vachement sympas dernièrement. Qui se souvenaient de mon prénom, ça m'a fait choquer.
Il faut que tu parles à ton médecin. Il faut qu'il augmente la dose des médicaments. Je pense encore, sans réelle preuve, que ne pas manger de mammifères diminuerait le risque de cancer. Sans réelle étude à l'appui, mais plutôt sur le fait que la viande rouge soit un cancérigène du groupe 1, selon le CIRC. Donc, dans le biais de confirmation, on a souvent déjà la conclusion. Par exemple, ici, le fait qu'il ne faille pas manger de mammifères, et on cherche à faire coller les informations qu'on reçoit à cette conclusion. C'est l'inverse total de la méthode scientifique, et c'est la porte ouverte à de nombreuses dérives. Et j'imagine qu'il y a bon nombre de sujets encore sur lesquels je suis accroché à mon biais de confirmation, un peu à la manière d'un morpion sur la pute suscitée. Je voulais prendre parce que là j'ai beaucoup parlé d'Eric très peu dans cet épisode. Un des exemples qui me touche et qui te touche peut-être, c'est par exemple Trump. Ma croyance, c'est qu'il est teubé, quoi, vraiment, il est stupide, alors que objectivement, c'est quand même un des mecs qui occupe un des postes les plus avec le plus de responsabilités.
Je pense pas qu'il soit stupide, je pense juste qu'il est dangereux.
Moi, vraiment, j'ai l'impression qu'il est, il est teubé. Et je pense que dès que je vois des tweets, alors que je suis même pas sur Twitter, tu vois, mais ouais. Dès que je vois des trucs, des informations qui le font passer pour quelqu'un de con, d'incompétent, je les retiens mieux que, tu vois, j'ai aucun exemple. Si on me demande un exemple de fois d'un truc qu'il a bien géré, ben, je sais même pas en dire, tu vois.
Mais la guerre économique qu'il fait avec la Chine et l'Europe en ce moment.
D'accord, mais toi, t'es moins soumis à ce.
Ben non, en fait, je regarde juste les actes. En vrai, je sais que c'est une. Quand il dit fake news ou quand. C'est. Il y a la posture qu'il va avoir vis-à-vis du monde et vis-à-vis de ses électeurs. Vis-à-vis de ses électeurs, il passe pour le blanc américain, le gros blanc américain, le white, je ne sais plus comment ils appellent ça, là, ceux qui vivent dans les banlieues, là, les WASP.
Et, white anglo-saxon, ok.
C'est ça, là, le gros américain banlieusard, fier de son pays, qui a un flingue chez lui. Et je sais qu'il va chercher cet électorat-là, c'est pour ça qu'il est, il fait très simple. Il fait des punchlines, des catchphrases. À chaque fois, il essaye d'aller chercher son électorat. Mais en soi, derrière, je sais que c'est un businessman très mal alpha, quoi. Il joue dans ses relations avec les autres pays, il gère ça comme un business. Donc c'est pour ça que la diplomatie est en grosse galère en ce moment, que ce soit avec l'Europe ou que ce soit avec la Chine, parce que lui, il voit tout comme un business. Donc on se retrouve à... Il n'y a plus de dialogue, les diplomates en ce moment passent en arrière-plan vu que lui, il voit soit business, soit guerre. Quoi.
D'accord.
C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a moins de, enfin, il est sur moins de théâtre d'opération que ses prédécesseurs au niveau militaire. C'est parce que pour lui, il voit ça que comme un coup. Le fait d'envahir un pays ou de laisser son armée, il voit ça que comme un coup.
Ouais, donc ça, quand même, ça prouverait quand même une stratégie assez poussée, une intelligence.
Je pense pas qu'il soit. Enfin, je pense que c'est une intelligence de business. C'est pas une intelligence de. C'est pas, je pense pas que ce soit quelqu'un fin. Enfin, c'est pas une intelligence fine comme un diplomate. C'est pas.
Ouais, mais tu vois, moi j'ai pas du tout ces images-là. Et comme je te dis, j'ai tendance à retenir que les choses qui vont confirmer.
Après, ça dépend comment tu vois l'intelligence. Hein. Vraiment, c'est parce que nous, en tant qu'Européens, un gros brut qui met les pieds dans le plat, on trouve pas ça intelligent du tout. Alors, mais les Américains, eux, qui ont cette culture de la win, qui ont cette culture de la gagne. Ils vont tendance à trouver ça intelligent, un type qui monte, qui sort ses couilles et qui.
Ouais, pour moi, c'était vraiment de la chance, tu vois, qu'il ait réussi à avoir autant de thunes. Il a commencé quand même avec un gros pactole, tu vois.
Ouais, mais pas. Enfin, par rapport à un Américain, je crois qu'il avait 6 millions ou un truc comme ça.
Ce qui est pas mal quand même.
Ce qui est pas mal, mais bon, il a.
Nous, avant de faire le podcast, on les avait pas, quoi.
On les a toujours pas d'ailleurs. Envoyez des sous, bordel. Envoyez des sous.
Non, mais tu vois, c'est intéressant. Je sais pas si, comme ça, de prime abord, t'as des exemples de. C'est hyper dur, hein, de se dire, en fait, sûrement sur ça, je me suis planté. Tu vois.
Mais en fait, je crois pas dans beaucoup de choses, moi. Donc, c'est un peu difficile. Je veux dire, il n'y a pas tant de choses dans lesquelles j'ai cru depuis que je suis gamin.
Oh, l'influence de la Lune, par exemple.
Non, mais tu vois, par exemple, non, mais j'y crois pas non plus. Enfin, je vois. Non, j'ai pas.
Y a tu lisais pas les horoscopes, tu.
Non, non, j'ai. Mais c'est pour ça. C'est aussi. Je pense que c'est un peu triste aussi de pas croire dans. Enfin, moi, je crois dans quasiment rien. Et je trouve.
Non, mais c'est une croyance en sens large, tu vois. Je crois que Trump est bête. C'est pas. Ça implique pas une.
J'ai pas de croyance pure et dure sur quelqu'un ou quelque chose.
D'accord. C'est étonnant, parce qu'on est tous censés être soumis au biais de confirmation, mais,
ouais, ouais,
mais comme tu dis, je te prends un peu à chaud, c'est pas facile.
C'est ça, et puis je pense aussi que depuis que je suis gamin, je remets tout en cause, et que ça rend pas très heureux, et je comprends le biais de confirmation. Je comprends que les gens cherchent.
Bah, je t'invite vraiment à lire le lien en description.
Oui, bah, t'inquiète, je cliquerai pas.
36 pages pour changer ta vie, c'est pas cher.
Non, hein. Non, mais je comprends bien que les gens aillent chercher une. Aille confirmer une croyance ou un fait, ou essaye de se raccrocher à quelque chose de tangible dans la vie, que ce soit. Donc,
mais non, mais principale. C'est croyance au sens large, c'est pas croyance en Dieu.
Oui, non, mais je sais. Mais ne serait-ce qu'une seule chose, se dire que par exemple, ça c'est bon pour la santé, ça c'est mauvais pour la
ou
santé.
Non, ou alors,
juste être sûr.
Tel collègue est trop con, bah, tu vas te rappeler que les fois où il a été effectivement con, tu vas pas te rappeler que, bah, en fait, une fois il t'a prêté son crayon, tu vois.
Et ouais, mais j'ai pas tendance à faire ça. J'ai pas tendance à dire, tiens, cette personne.
T'as pas de gens que t'aimes pas.
Si, il y a des gens que j'aime, pas. Mais je sais aussi qu'ils ont des qualités, mais je vais pas les prendre en compte parce que je vais prendre en compte effectivement que les choses que j'aime pas. Mais je vais pas essayer de faire une liste incroyable en disant, oui, me convaincre que cette personne est mauvaise. Je vais, je vais, je, je vais pas essayer de... maintenant je le fais plus, je vais pas essayer de confirmer que cette personne est mauvaise. Si je l'aime pas, je l'aime pas, mais je sais pourquoi je l'aime pas. J'enlève pas ses qualités et ses défauts, mais je l'aime pas.
D'accord. C'est un peu plus compliqué que ça.
J'essaye plus de confirmer ça. Enfin, je me fais plus chier à le faire.
Très bien. Eh bien, écoute, j'ai des petites recettes. Alors, comme pour la cellulite, il n'y a pas de recette miracle pour se débarrasser du biais de confirmation. Enfin, encore que pour la cellulite, une simple...
Si, en avoir rien à foutre, c'est pas mal.
Une simple, pour la cellulite, une simple amputation suffit, en fait.
Ah ouais?
J'ai quand même quelques pistes pour vous aider à lutter contre
ce biais.
J'ai de
la peau d'orange, tu veux une jambe comme ça?
Voilà, exactement. Fatalement, tu n'as plus de cellulite. Alors, tout d'abord, écoutez les détracteurs, en fait. Alors, je ne suis pas encore complètement convaincu de l'utilité des débats, mais s'il y en a une, c'est bien celle-là. Même si un débat fait rarement changer d'avis instantanément, c'est important d'écouter les arguments des connards, des gens qui pensent pas comme vous, et de les analyser a posteriori en essayant de rester le plus rigoureux possible, tu vois. C'est plutôt en gros, si leurs arguments instillent un doute en vous, en fait c'est plutôt sain, c'est plutôt une bonne chose de changer d'avis. On fait tous des erreurs, moi-même à l'époque j'ai acheté le CD de Mano, tu vois. Enfin, gardez...
Si c'est une vraie erreur.
Écoute, si j'avais persisté dans mon biais de confirmation en disant Mano, c'est le meilleur groupe du monde, je serais le seul mec encore avec un t-shirt Mano, tu vois, en faisant les courses et tout. Je me serais forcément fait tabasser dans la rue, je serais peut-être mort, Eric. Peut-être mort. Enfin, gardez toujours en tête que quand vous faites des recherches, vous êtes biaisé, quoi qu'il arrive. Ça peut valoir le coup, si vous arrivez à faire ce petit exercice mental, de se mettre dans la peau de quelqu'un qui ne pense pas comme vous et de faire des recherches avec les mots-clés que cette personne aurait utilisés.
C'est un peu dangereux aussi. Hein.
Parce que pour
m'être fait approcher plusieurs fois par des sectes dans la rue, souvent ils essayent de te remettre, d'instiller le doute en toi. C'est sain de douter, mais par exemple, et moi je sais qu'ils utilisaient des techniques débiles, genre ils me faisaient un carré, ils me disaient comment, rien qu'en voyant ce carré, comment tu peux faire un demi-carré, et quand t'es un gosse de... Enfin, tu peux faire un carré deux fois plus petit. Pour nous, maintenant, ça nous paraît très simple. T'as un carré, tu veux faire un carré deux fois plus petit, tu prends les milieux des carrés, et puis tu les rejoins. Enfin, les milieux des segments, et puis tu les rejoins.
Tu fais une croix dedans, quoi.
Voilà.
Mais tu fais quatre carrés plus petits.
Et donc, quand t'es gamin, tu dis, ouais, non, je sais pas, et tout. À mon avis, c'est pas possible. Et là, le mec de la secte, moi, je me souviens me faire... regarde, tu vois, alors faut que tu remettes tout en doute et tout, tu vois, parce qu'il y a des trucs que tu sais pas et tout, et j'avais trouvé ça.
Alors je rappelle que l'émission s'adresse à des adultes, hein, effectivement, si vous avez 4 ans...
Les gens qui sont dans des sectes, en général, sont des adultes.
Hein. Ouais, mais du coup, le doute n'est plus permis dans les sectes, en fait, hein. C'est un peu l'inverse.
Oui, mais pour t'y faire rentrer, on te fait douter.
Eh ben, je suis allé, j'ai eu la chance de pouvoir faire l'expérience
d'une secte.
D'aller voir l'église de Scientologie aux États-Unis. En fait, ils t'offrent un test de... Je ne sais plus si c'est un test de personnalité, mais en gros, ils te font voir une vidéo. Et en gros, alors ça m'a pas trop... Ça n'a pas trop marché sur moi, mais j'imagine... En gros, ils disent, s'il y a quelque chose qui va mal dans ta vie, si tu as perdu des proches, si tu te sens mal, ça peut être une réponse, tu vois. Et alors, ça ne va pas marcher sur tout le monde, mais en recrutant large, ça va forcément...
Bah oui, bien sûr.
Et en plus, ils tapent un peu sur la... Alors l'horoscope, c'est d'autres sorts, mais du coup, ouais, c'est justement, je trouve que au contraire, cultiver son esprit critique, c'est vraiment une bonne arme contre ça, tu vois.
Oui, parce que tu remets en doute ce qu'on va te présenter. Mais si tu te dis aussi, attends, y a peut-être un petit peu de vrai, faut que j'aille creuser tu peux aussi tomber dedans.
Ça dépend comment...
Si t'es dans un état fragile psychologiquement, surtout, c'est ce que les secteurs...
Faut savoir analyser, en gros, si t'es... Si...
Tu vas pas, quoi.
Ah non, mais je veux dire, c'est...
Non, mais bien sûr, mais l'esprit critique, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que tu peux en avoir en mode, moi, je sais que notre pote Tully qu'on avait ramené, il était allé à une de ces conférences débiles. Mais moi, j'avais vu direct que c'était une secte, et je lui ai fait, ouais, non, il pue ce type, n'y va pas. Mais lui, il avait franchi le step d'après, d'aller voir la conférence. Ouais, mais enfin, à partir du moment où tu as analysé que c'est une secte, normalement, tu t'arrêtes là, quoi.
Je sais que tout le monde n'avait pas voulu aller dans l'église de Scientologie, au contraire.
Après, la Scientologie, c'est vraiment une énorme arnaque, quoi.
Ouais, mais tu vois, je veux dire, c'est... Peut-être qu'il y a une secte qui a raison, tu vois. Non, mais j'en sais rien, tu vois, j'ai pas d'a priori. Il y a peut-être une secte qui m'a dit...
Et c'est les... mon gars.
Oh là là, toi, tu vas avoir des soucis. Alors, je vais vous donner... N'hésitez pas à écrire au podcast, je vous donnerai l'adresse personnelle des...
Allô, Sophie. Enfin, ton répondeur. Dis, voilà, écoute, ça fait quelques jours que je suis amoureux de toi. Et si tu prouves quelque chose pour moi, écoute, rendez-vous au café de la gare, 14h. Ciao.
C'est encore Gaëtan, ce petit obsédé qui travaille à Auchan, aux rayons surgelés. Il drague tout ce qui passe, raconte des trucs douteux. C'est un gros dégueulasse, il est vraiment foireux. Il vit chez sa mémé, il s'habille chez Dama avec son petit ciré. Il est vraiment ringard, il joue les Don Juan dans sa super Volvo. Il est vraiment navrant, il n'écoute qu'à l'amour. Jean Neymar de ce état. Rien n'a fait. Il m'exaspère.
J'ai rencontré Sophie à la foire au fromage. Elle est vraiment jolie. Je suis sur un nuage. J'ai eu son numéro par son meilleur copain. C'est un grand rigolo. Je crois qu'il m'aime bien. Pareil que je lui plais et qu'elle me trouve beau. Quand je mets mon ciré, je ressemble à Clo-Clo. Elles sont toutes folles de moi. Je suis irrésistible. Elles sont toutes en émoi. Je suis vraiment terrible. Je l'aurai. Car je lui plais. J'en suis sûr. Elle va craquer. Allô Sophie, dis, si tu as reçu mon message après 14h, ah bah écoute, il est toujours pas trop tard, donc rendez-vous 19h au drugstore. Ciao.
Je suis vraiment coincée pour une fois que je sors à une super soirée au café le drugstore. C'est vraiment mal barré, que vont dire les copains? Ce type a tout gâché, y'a plus de rime en pain. J'ai envie de le tuer à grands coups de chevrotine ou bien de l'éventrer comme ça dans sa cuisine. Mais c'est quand même bizarre pour une fois qu'on m'invite où c'est Fatou Bernard et de ses acolytes.
Il est bientôt 2h, mais elle ne m'a plus. Je vais lui faire mal au cœur, lui dire que j'aime plus. Ses copains sont partis, le café va fermer. Je n'ai qu'une seule envie, c'est d'aller me coucher.
Allô, Sophie, écoute, c'est Gaëtan. Écoute, il est 2h du matin, je suis fatigué, j'avais faim, j'ai mangé des pralines, j'avais toujours faim, je viens de finir les fleurs. Écoute, ça fait dur entre nous, écoute, c'est fini, je sais que ça va être dur pour toi, mais courage, courage, ne pleure pas. Je resterai un ami pour toi si tu veux, c'est fini entre nous.
Je vais terminer cette émission avec la question de la semaine, si ça te va.
Vas-y, je t'en prie.
Eric, quel est le dernier conseil merdique qu'on t'ait donné?
Ah oui, on m'a dit d'installer Tinder. Attends, je reprends ce que j'ai écrit.
D'accord. Ah oui, t'as... Alors, ok, vas-y.
Non, c'est un peu nul de dire que j'ai écrit parce qu'après, les gens vont se rendre compte que c'est nul ce que j'ai écrit. Alors, ouais, j'étais avec un mec l'autre jour et il m'a conseillé d'installer Tinder. Alors, de base, moi, j'aime pas Tinder. Le côté...
explique pour les plus âgés.
Non, mais tout le monde, dans ta gueule, tout le monde connaît Tinder. Alors, Tinder, c'est une application de rencontre.
Ah, c'est un peu le eBay du sexe, quoi.
Voilà, et vous avez des visages... Je suis vraiment en train d'expliquer ce que Tinder... Vous avez des visages qui passent, et puis vous swipez si vous voulez rencontrer
alors,
cette personne.
Alors, les vieux savent pas ce que c'est à swiper.
Hein, alors, vous passez à gauche ou à droite, en fonction de si cette personne vous intéresse ou non. Et donc, vous êtes avec votre pouce, là, sur votre smartphone, et un coup à droite,
non,
un coup à gauche.
Je vais recontextualiser. Donc, vous êtes assis sur votre fauteuil... votre prothèse de hanche,
sur votre toilette, mon gars.
Votre prothèse de hanche vous fait un mal de chien et vous êtes quand même vachement seul depuis la mort de tonton René il y a plus de 35 ans. Vous avez décidé de rencontrer un nouveau senior pour aller faire les courses et peut-être dans vos nuits les plus chaudes jouer au Scrabble. Vous téléchargez donc l'application, c'est des petits logiciels qui se mettent sur le téléphone. Vous entrez quelques informations et cette application vous permet de rencontrer très facilement
Une...
quoi, c'est quoi les prénoms, c'est
des vieux,
ouais,
bah des, on va dire qui est un prénom qui est plus trop à la mode.
Ouais, on va avoir des soucis. Non, non, en fait, je retire. Ouais.
Et non, mais tu sais que les seniors, ils ont vachement plus de maladies sexuellement transmissibles maintenant.
D'accord.
Ça baise à fond dans les EHPAD.
Un peu comme les koalas, d'accord.
C'est non, non, mais ça baise à fond dans les EHPAD.
Et les koalas aussi.
Ah ouais. Ils baisent à fond dans les EHPAD.
Ah ouais, franchement, ouais. Elle va pas voir ta grand-mère, c'est des fous furieux les koalas.
Bon, voilà. Du coup, maintenant qu'on a bien expliqué ce qu'était Tinder, à mon avis, c'était plus long que ce que je voulais. Bon, ce que j'aime pas dans Tinder, c'est le côté consumérisme, justement, de ces relations sexuelles. Ça m'attriste un peu. C'est le côté on swipe, on s'écrit, on se dit « Ah ouais, désolé, Tinder marche pas sur mon téléphone, je te file mon numéro, la meuf t'écrit, tu gères un rendez-vous. » Et ça m'attriste un peu. Et c'est pas ma génération... Enfin, je suis peut-être pas encore assez vieux, mais c'est clairement pas pour ma génération. Moi, je suis un peu old school. Si je suis pas bourré et que la fille non plus...
C'est vrai qu'il est entre dab et proteste de enchéri.
C'est vrai,
ouais.
Je suis un peu entre les deux. C'est, voilà, si aucun de nous deux... Enfin, si on n'est pas bourré, si on n'est pas dans un bar... Il est hors de question qu'il se passe quelque chose.
Alors, non. Donc, je pense que tous les barman te déconseillent de faire des choses...
de faire des choses dans leur bar.
Ouais.
Donc le gars a 22 ans et m'installe Tinder. Et lui, tu vas voir, c'est hyper simple.
C'est tellement vieux comme phrase. Il a mis Tinder sur mon téléphone.
Ah non, ouais. Et il me dit, tu vas voir, c'est hyper simple. Tu dis que ça bug, tu lâches ton numéro. Et la moitié du travail est fait. Je lui demande donc si ça marche pour lui. Et il me dit que ça a tellement bien marché pour lui qu'il y a des endroits en ville où il peut plus se balader de peur de tomber nez à nez avec ses dates qu'il a eu sur Tinder.
Stylé.
Donc là, je me dis, attends...
Attends, t'habites un village où il n'y a que ta famille.
Non, non.
Bizarre, quand même.
Je lui réponds que c'est impossible d'avoir des premiers dates tellement hardcore que tu peux plus te balader dans certains coins de la ville. Je lui dis, personne ne balance ses préférences sexuelles cheloues au premier date. Ou à la première fois que tu couches.
Rendez-vous. Je traduis.
Et lui, il me répond, non, non, mais c'est pas ça. La dernière fois, il y a eu plusieurs dates où je me suis barré de chez la fille en lui piquant de la thune.
Ah ouais.
Là, j'étais mort. Ça m'a encore moins motivé.
Ah, tu m'étonnes.
À aller sur Tinder. Donc, bien sûr, il n'y a pas de morale à cette histoire, hein, si ce n'est que... N'installez pas Tinder.
Ouais, méfiez-vous.
Méfiez-vous des gens que vous rencontrez et qui viennent passer juste un soir chez vous. Voilà.
D'accord. Eh ben écoute, sur cette belle histoire de Noël.